Écoutez, je vous propose, on va commencer, hein. Je crois que tout le monde est à peu près là, il y a encore peut-être quelques personnes qui arriveront rapidement. Merci de venir à cette deuxième conférence sur les origines de la pensée bouddhique. Je voudrais tout d'abord vous donner quelques informations. Alors, tout d'abord, la mairie de Saint-Mandé a gentiment mis à la disposition de ces conférences sur le site, c'est marqué ici encore en plus gros que j'ai écrit au tableau, c'est-demandé.com sur Internet pour ceux qui se servent de cet outil de lecture. Donc sur le site www.c'est-demandé.com, il y a un petit pavé sur la première page où il y a marqué site Alain Jouvray, c'est mon nom, et sur lequel vous déboulez directement en cliquant dessus sur les conférences en question, et vous avez à la fois le script des conférences, c'est-à-dire finalement ce que l'on voit, ce qui est distribué à la fin sous une forme écrite comme ceci, et également l'enregistrement, parce que ce que nous faisons est enregistré à l'heure actuelle, l'enregistrement des sessions. J'ai écouté, ça rend pas mal, je trouve. On entend bien, et ma voix, enfin bon, ce qui a été un petit peu normal, mais également la voix des personnes qui ont posé des questions dans la deuxième partie de la séance. Et donc, ça peut être intéressant à écouter. Et puis surtout, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ces sessions et qui en louperaient une, parce que vous allez voir qu'on a des dates qui sont quand même assez irrégulières, eh bien, ça permettrait de raccrocher et d'avoir les informations de la séance à laquelle il n'aurait pas assisté. Donc il y a à la fois l'écrit et la chose sous format audio, c'est-à-dire ce qui est audible. Je vous avais dit également que je vous donnerais quelques éléments au fur et à mesure bibliographiques, hein, quelques références de livres intéressants. Mon but n'est pas du tout de vous surcharger en référence en vous donnant des bibliothèques entières, surtout qu'il y a quand même beaucoup de livres qui sont consacrés au bouddhisme et qui finalement se répètent mutuellement les uns les autres. Alors souvent ce sont des livres de présentation, d'introduction au bouddhisme. Il y a par exemple le livre « Qu'est-ce que le bouddhisme ?» de Borges, ou des livres comme ça. Finalement je trouve que ça donne... Vis-à-vis de ce qui est dit dans les conférences qui se font ici et de l'approche qui est la nôtre, souvent, ça ne donne pas grand-chose de plus parce que finalement, vous avez le point de vue d'un certain nombre, en général, d'intellectuels occidentaux qui ont lu mutuellement les livres les uns des autres. Et donc, tous ces livres-là disent finalement souvent la même chose, mais sans qu'on se rapproche vraiment du centre de la question. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à vous diriger vers des ouvrages qui sont souvent des ouvrages de traduction des textes bouddhiques eux-mêmes, ou alors des ouvrages qui sont faits par certains spécialistes qui, eux, ont approché d'une manière plus vive la problématique bouddhique. Alors, une chose dont je me suis quand même beaucoup inspiré aujourd'hui et que je vous conseille vivement, c'est les œuvres d'André Barraud, qui était professeur au Collège de France, qui était un spécialiste du bouddhisme, qui est décédé il y a déjà 5 ans maintenant, il y a un peu plus de 10 ans je pense, et qui a écrit beaucoup de livres extrêmement intéressants, et notamment un que l'on trouve facilement, qui s'appelle « En suivant Bouddha ». Je l'ai vu notamment à la librairie, en passant comme ça, la librairie qui est près de la poste, hein. Oui, moi j'ai pas d'action là-bas. Mais donc, pour vous dire, c'est un livre qu'on trouve assez facilement et qui est commandable. Et c'est un livre qui est excellent. C'est un livre vraiment qui est excellent sur le bouddhisme. Surtout, justement, c'est un livre qui est fait par quelqu'un qui est un érudit et qui donne souvent des faits qu'il a vérifiés. C'est qu'il ne se contente pas de reprendre dans d'autres livres que d'autres ont déjà dit, etc. Mais il y a vraiment un travail de recherche et un travail de vérification dedans. D'autres textes que je vous conseillerais vivement, c'est donc des écrits bouddhiques, ça s'appelle le Dharmapada, c'est du pali, en sanskrit, Dharmapada, Parmi les premiers textes du bouddhisme, ça se présente sous la forme de petits aphorismes ou de poésie. C'est extrêmement profond. Pada, en fait, ce sont des stances, hein, donc c'est des choses qui, normalement, sont faites sous une forme régulière et rythmée. Donc ce sont des tout petits textes de 3-4 lignes. Et c'est très intéressant. Et ça, on le trouve dans plusieurs éditions de poche. Alors, je n'ai pas comparé toutes les traductions qui existent, mais en édition de poche, on le trouve chez Albin Michel, chez Garnier Flammarion et chez Le Seuil. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, les deux premiers livres vraiment qui viendront bien compléter ce qui est dit ici, tout en rappelant, comme je vous l'avais dit la fois dernière, que, évidemment, on peut lire le livre et c'est important, mais que le bouddhisme, en général, ne s'apprend pas uniquement dans les livres, parce que il faut qu'il y ait une forme d'échange et il y a des questions que les personnes se posent, qu'il y ait des réponses qui puissent être apportées. Donc ça, c'est pour les éléments bibliographiques. D'autres informations, donc la prochaine session aura lieu le 2 mars, donc on ne va pas se voir pendant le mois de février. Par contre, il y aura 3 sessions durant le mois de mars. Sur le petit fascicule qui est fait à chaque fois, il y a toutes les dates qui figurent. Hein, parce qu'elles sont assez irrégulières, les dates. Hein, donc, ça vaut la peine de le prendre. Et j'ai également noté, vous trouverez sur le petit fascicule, c'est une question que l'on m'avait posée la fois dernière, à savoir quel était le programme séance par séance. Je ne l'avais pas à l'esprit. D'une manière détaillée à ce moment-là, enfin je connais les choses globalement qui sont traitées, mais donc je l'ai écrit également, comme ça si personne veut voir exactement ce qui se passe à chacune des séances, je l'ai noté. Donc maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va voir quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire le personnage historique qu'a été le Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé. La fois dernière, nous avons vu essentiellement la problématique essentielle de la pensée antique de l'Inde, qui a éclos avant l'époque du Bouddha et à laquelle à la fois lui-même et un certain nombre d'autres penseurs de son époque et des époques ultérieures ont tenté de donner une réponse. Alors je vais redire, si vous voulez, cette problématique de façon à ce que nous l'ayons en tête. Donc les Indiens de cette époque croyaient dans un phénomène donc, que l'on appelle la transmigration, et qui est le fait que les actes que nous avons effectués au fur et à mesure conditionnent la vie qui est la nôtre. Non seulement pour eux, les actes que nous avons effectués dans l'existence actuelle, mais également dans des existences passées. Cette notion fait que la vie se poursuit donc sans cesse, et c'est une expérience qui est jugée comme étant pénible et douloureuse. Alors ce n'est pas seulement la vie sous la forme humaine qui est la nôtre, hein, mais c'est également la vie animale et également d'autres formes de vie qui existent dans la conception que les Indiens de l'Inde antique hein, avaient de l'existence, qui sont des vies même encore plus douloureuses souvent que la condition animale. Donc il y a une vie, même on pourrait dire, infernale, qui est celle des damnés, donc qui sont les gens qui vivent dans une sorte de chose qui est comparable à ce que nous avons ici sous le nom de l'enfer. Ensuite, il y a des personnages qui sont en proie à une faim, enfin à un désir insatiable, et qui sont ce qu'on appelle des esprits affamés ou des revenants affamés. Ensuite de quoi vous avez la condition animale. Ensuite, ça c'est pas un peu des époques, mais il y a en général, à l'époque de l'Inde antique, on passe directement à la condition humaine, Et ensuite de quoi, il y a une condition divine, donc il y a une condition supérieure et meilleure que la condition humaine. Le cycle de la transmigration donc se fait à travers ces différentes existences, humaines, animales, les infernales, etc. On voit bien que nous, à l'heure actuelle, en étant à la condition humaine, c'est déjà presque la meilleure. C'est pas la meilleure, parce que la meilleure, théoriquement, c'est la condition divine, mais c'est déjà très haut. C'est nettement meilleur que la vie animale ou que les états dont j'ai parlé précédemment, comme l'enfer ou les revenants affamés. Donc, ils sont des états caractérisés par extrêmement peu de liberté et confrontés à une souffrance extrêmement importante. Donc, au fur et à mesure, dans l'époque qui précède l'arrivée du Bouddha, il y a eu une sorte, on pourrait dire, d'inquiétude métaphysique qui faisait qu'il fallait se dégager de ce cycle. Ce cycle de la vie qui se perpétue sans cesse et dans des conditions pénibles, confrontées à la douleur, il y a un certain nombre de penseurs, dont le Bouddha lui-même, qui ont essayé de voir si l'on pouvait se dégager de ce cycle. Donc, c'est la question essentielle qui est à l'origine de la pensée bouddhique, également d'autres pensées de l'antiquité indienne, et c'est une pensée qui a suivi le bouddhisme tout au long de son histoire. Hein, je vous avais cité la fois dernière un penseur très important du bouddhisme qui est arrivé environ 18 siècles après le Bouddha, et on voit bien que 18 siècles après, cette problématique reste constante. Alors aujourd'hui, nous allons voir le personnage historique, donc, qu'on appelle le Bouddha. Alors, je voudrais déjà faire une petite aparté. Je vais essayer de parler aujourd'hui de ce que l'on connaît du Bouddha historique. Sachant que, si vous voulez, dans la tradition bouddhique, les choses se sont déplacées comme ceci. Donc, on est parti d'un personnage historique qu'on suppose qui a vraiment vécu, on verra les informations que nous avons sur son compte, qui en général est connu sous le nom de Shakyamuni, qui signifie Muni c'est le sage et Shakya c'est le clan dont cette personne était originaire, donc le sage des Shakya, du clan des Shakya, et ce que cette personne-là, à travers les écrits, les premiers écrits bouddhiques, il y a un certain nombre d'informations. On verra lesquelles tout à l'heure. À partir de là, de cette personne, la tradition bouddhique plus tardive a fait une sorte de légende dorée. Alors, je ne sais pas comment appeler ça, mais pour la légende, où, au fur et à mesure, on en a rajouté. Donc on lui a trouvé toutes sortes de caractéristiques qui n'étaient probablement pas celles du personnage historique. On en a fait un fils de roi, alors que vous verrez, cette personne n'était absolument pas du tout le fils d'un roi. D'ailleurs, on aurait bien, avec les connaissances que l'on a de l'Inde actuellement, on aurait bien du mal de positionner le royaume dont on aurait fait un fils de roi. Et au fur et à mesure, la légende n'a pas arrêté de grossir, un peu comme une boule de neige qui dévale pour s'enfourner en avalanche. Et à chaque fois, mais c'est une tradition finalement qu'on trouve quand même pas mal dans la manière dont les légendes et se font, et la piété populaire s'en empare, plus les gens qui alimentent cette piété populaire en Asie, c'est-à-dire qu'on rajoute du merveilleux. Le bouddhisme ayant quand même beaucoup voyagé, partant de l'Inde pour faire un long séjour, un long trajet qui l'a mené jusqu'en Chine, au fur et à mesure, on en a rajouté. Et à la fin, on arrive à quelque chose qui est extrêmement peu crédible, et surtout dont historiquement, qu'on a beaucoup de mal à recouper avec les faits, et non seulement on a rajouté des détails merveilleux, on l'a éloigné dans le temps, parce que les Chinois n'avaient même pas une vue très nette des différentes, dynasties indiennes, et donc, on a créé du merveilleux. Alors aujourd'hui, si vous voulez, tout cet aspect merveilleux, légendaire, etc., bon, qui est très intéressant, mais je n'en parlerai pas. Parce qu'on va essayer de s'approcher le plus que l'on peut du personnage réel, parce que c'est quand même lui qui a créé le bouddhisme, plus que des légendes que ces hagiographes ont colportées. Et ensuite de quoi, la piété populaire en Extrême-Orient ne s'est pas arrêtée là du tout. C'est-à-dire que quand le personnage n'a plus pu être le réceptacle de nouvelles légendes et de nouveaux faits merveilleux, il y a eu création d'autres Bouddhas, qui alors là ne sont plus tout historiques, et donc qui sont ou philosophiques, ou imaginaires, ou symboliques, comme on veut, mais dans lesquels les gens ont vraiment cru, hein, et croient encore aujourd'hui. Et par exemple, le plus célèbre d'entre eux, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul, c'est par exemple Amitabha, ou Amitabha, ou Amitayu, ça dépend sur quel texte on se base. Et le nommé Amita, donc, qui a été à la base d'une religion, qui était sans doute l'une des religions les plus importantes de l'humanité, qui s'appelle l'amidisme, qui ici, je pense, est extrêmement peu connue, mais qui en Asie, en Extrême-Orient, c'est la religion pratiquement majoritaire, à la fois en Chine, au Japon, en Corée. Donc, alors, ce personnage, lui, il est vraiment surchargé en détails merveilleux, légendaires et autres, en presque toutes sortes de qualités. Alors aujourd'hui, moi, si vous voulez, ce dont je vais parler, c'est de lui. C'est-à-dire ce personnage initial, historique du Bouddha, et qui, de par la démarche intellectuelle et pédagogique qui a été la sienne, finalement, a complètement influencé, je dirais, tout le développement ultérieur du bouddhisme. Donc on va essayer de se rapprocher de ce personnage pour voir qui il a été. Alors, quelques repères déjà. Le Bouddha est né vers le 6e siècle avant notre ère. Donc pour le situer, on situe globalement, c'est très incertain, hein, c'est pas 10 ans près du tout, mais à peu près vers sa naissance, vers le milieu du 6e siècle avant notre ère. Alors ça fait que c'est un, si vous voulez, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, c'est un contemporain de Confucius, par exemple, hein, c'est un contemporain de Lao Tzu, et c'est quelqu'un qui précède un petit peu, qui est un peu plus vieux que quelqu'un comme Socrate, par exemple, pour avoir une idée. Donc on voit qu'il arrive dans une période de l'humanité où il y a des personnes, des grands penseurs, je veux dire, qui influencent encore la pensée actuelle et toute l'histoire de la pensée, que ce soit en Occident ou en Asie. Il y a des premiers penseurs, individuels. C'est-à-dire non plus des personnes qui sont les héritiers d'une tradition archaïque, très antique, hein, mais des personnes qui se posent, si on prend le cas par exemple, que ce soit le Bouddha ou Confucius, sont des gens qui se sont posés des questions. Auparavant, il y avait des traditions avec des rites qui existaient, avec une nécessité de respecter les rites. Alors bien sûr, les hommes également se posaient des questions, mais là, on a des personnes... Alors, qui décide de reprendre la tradition ou d'aller contre la tradition, par exemple quelqu'un comme Lao Tzu, par exemple, ne reprend pas la tradition de ce qu'il y a tellement avant lui et donne plutôt quelque chose de nouveau, mais c'est une époque de l'humanité où on commence à avoir des penseurs, je dirais, individuels, et dont l'histoire a retenu les noms. Bon, il y en a eu d'autres avant, il y a les pré-socratiques également en Grèce qui sont de cette époque-là, voire même antérieures. Mais on est vraiment à une époque où il y a des poids lourds de la pensée, si vous voulez, qui apparaissent dans le monde. Que ce soit en Grèce, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde. Et des personnes qui modifieront d'une manière extrêmement durable les sillons de la pensée humaine et de la pensée philosophique qui viendra ensuite. Donc, il naît dans ce 6e siècle avant notre ère. dans une région ou une petite bourgade qui s'appelait à l'époque Kapilavastu et qui maintenant a été identifié comme étant un village qui s'appelle Piprawa. C'est exactement à la frontière indo-népalaise. Pendant longtemps, on avait estimé que le Bouddha était né dans un endroit qui correspondrait plutôt au Népal actuel. Et finalement, on pense maintenant que c'est à cet endroit que je vous ai dit. Bon, c'est pas très loin du Népal, il y a la frontière indo-népalaise. C'est à peu près un peu plus de, pour le situer sur une carte, un peu plus, donc en allant vers l'Himalaya, un peu plus de 200 km au nord de Bénarès, en allant tout droit en partant de Bénarès. Alors, il naît dans une tribu, un clan, qui s'appelle les Chakyas. Alors, parfois, vous le verrez également écrit avec un CCI, hein, c'est une autre manière de... C'est la manière française, donc CCI, H-K-Y-K, où le plus souvent, vous voyez sous la forme anglo-saxonne, c'est-à-dire Chakyas comme ça. Donc, ce clan des Chakyas est un petit clan, dont l'histoire, finalement, n'a pas gravé grand-chose, sinon qu'il y a ce personnage, le Bouddha, qui en est né. Mais je pense que sans ça, il serait passé complètement dans les oubliettes de l'histoire. Il fait partie de la... On avait étudié la fois dernière les quatre castes hein, qui composaient la société indienne d'alors. Il fait partie de la caste des guerriers, les Kshatriyas. Donc vous vous rappelez, dans l'ordre des castes, les premiers, du moins la classe, la plus... Pardon ? Oui, pardon ? Oui, le premier, donc, c'est les brahmanes. Les deuxièmes, c'est les kshatriyas. Donc, les troisièmes, ce sont les artisans, paysans, etc. Enfin, les personnes qui participent de la vie économique de production, les vaishyas. Voilà. Et les derniers, c'est les sudras, qui sont les serviteurs de ces gens-là. Et ce que nous appelons, nous, maintenant, les parias, en fait, sont les gens qui sont, peut-être qui étaient extrêmement nombreux, qui sont hors caste. C'est-à-dire qu'ils sont issus du mélange des castes ou qui, pour une raison ou pour une autre, échappent au système des castes. Et donc, il naît donc dans cette caste des guerriers, et donc qui est la deuxième caste par l'ordre d'importance, de respectabilité, de dignité, et dans une région frontière de l'Inde gangétique. Probablement, c'est juste contrairement à ce que dit la légende, c'est donc quelqu'un qui a une vie naître sous la forme d'un guerrier dans une région frontière de l'Inde, qui est une région peu peuplée, pas très saine d'ailleurs au niveau climatique. C'était sans doute une condition relativement difficile. Et c'est quelqu'un qui a eu une grande résistance physique tout au long de sa vie. Résistance physique qui est sans doute due à l'éducation qui a été la sienne. Il faut imaginer que la vie des gens qui faisaient partie de cette caste, des guerriers dans une région frontière de l'Inde antique, au bord de l'Himalaya, ça devait être une vie où on était quand même confronté assez rapidement avec le danger, avec la dureté de la vie, je pense. Et ce sont des gens qui, enfin du moins pour ceux qui survivaient, parce qu'à l'époque la mortalité était quand même beaucoup plus forte que de nos jours, qui avait sans doute une bonne constitution physique et qui était également entraîné au métier des armes, hein, il faut le savoir. Donc le Bouddha naît dans cette caste. En fait, on sait très peu de choses sur toute la période de l'enfance jusqu'à l'éveil, parce que lui-même en parle très peu, parce que il est intéressant dès le moment où il devient le Bouddha. Lui-même, d'ailleurs, dans la plupart des textes où il prend la parole, se positionne vis-à-vis de ses interlocuteurs. C'est en premier un pédagogue, donc c'est en premier quelqu'un qui veut faire quelque chose avec les interlocuteurs qui sont les siens, et donc il ne parle pas énormément de lui, il ne parle pas de son enfance. Alors son père devait être une sorte de petit seigneur ou de quelqu'un qui a la tête d'un petit manoir ou d'une ferme fortifiée ou quelque chose de similaire dans cette région peu peuplée. Sa famille se rattachait à un clan brahmanique qui est celui qui est davantage connu que leur clan à eux des Chakyas. Ce clan brahmanique s'appelle le clan des Gautama. Et alors souvent dans les textes, il est également désigné par ce nom.
Je vais passer à une autre page. Souvent, ses interlocuteurs l'appellent par le nom de ce clan.
Alors, il aurait eu également comme nom, parce qu'en fait, quand on l'appelle le nom le plus communément sous lequel il est appelé, donc Shakyamuni, c'est le sage des Shakya, le sage du clan des Shakya, c'est un nom qui a été donné par les gens pour désigner. Il semblerait que comme nom personnel, mais encore là, c'est pas extrêmement sûr, c'était quelque chose qui a été rajouté après, il se soit appelé Siddhartha, ce qui signifie celui qui a atteint son but. Alors, donc, il a cette jeunesse de jeunes guerriers, de jeunes kshatriyas, donc de cette région de frontalière. Et sans doute, de cette époque-là, il a développé des qualités de courage et de ténacité, parce qu'on va voir que c'est quelqu'un qui est extrêmement tenace, dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Il a sans doute également développé une résistance et une capacité physique assez rares. Quand on regarde, parce que par la suite, on va voir que c'est quelqu'un qui a beaucoup enseigné en se déplaçant d'une région à l'autre et en marchant. Et quand on regarde, jusqu'à un âge très avancé, quand on regarde les périples, quand on voit les villes dans lesquelles il a enseigné et l'éloignement qu'il y a entre ces villes, c'est quelque chose qui est assez stupéfiant, sachant qu'on se déplaçait à pied. Il faut voir que la région dans laquelle il s'est déplacé, c'est à peu près un triangle qui correspondrait, peut-être la moitié de l'Europe, pour avoir une idée, un tiers de l'Europe. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai pas mesuré, mais j'avais lu que comme distance, c'est à peu près la distance pour faire ce triangle, Madrid, Athènes, Londres, pour avoir une idée, pour remettre ça sur une carte européenne. Donc, vous imaginez, l'Inde, c'est pratiquement un demi-continent, un sous-continent, et donc, dans cette partie du nord de l'Inde, il s'est énormément déplacé. Et donc, pour se déplacer de la sorte, c'est quelqu'un qui avait sans doute une résistance physique, et c'est un bon marcheur, évidemment, donc il avait une résistance physique assez rare. Et donc, c'est sans doute de cette jeunesse qu'il tient cette résistance physique, il la tient également des capacités spirituelles qui ont été les siennes. Alors, sans qu'on ait beaucoup de détails, il a été marié, probablement il s'est marié relativement jeune. Certains textes disent que sa future épouse l'aurait remarqué lors d'un tournoi d'archers. De ce mariage, il aurait eu un fils, au moins un fils, qui s'appelle Rahula, et qui sera plus tard un disciple important du Bouddha. Quoi qu'il en soit, il traverse une crise spirituelle aiguë qui le pousse, donc là ça va être le début de la recherche spirituelle qui va être la sienne, qui le pousse à quitter sa famille et à devenir un ascète errant. Alors, ici ça peut sembler assez bizarre, cette notion de quitter sa famille pour devenir un errant, une sorte de vagabond, d'ascète. Mais en Inde, je ne dis pas que c'est quelque chose de courant, mais c'est quelque chose qui se faisait. Ça faisait partie des schémas possibles. Alors, dans beaucoup de cas, c'est quand même souvent des hommes un peu plus âgés que lui qui font ce genre de choses. C'est-à-dire que ce sont déjà des hommes qui ont une famille et dont les enfants sont eux-mêmes commencent à être adultes. Et donc, on pense que la personne a rempli ses obligations sociales, familiales. Il a été un bon père, il a élevé ses enfants, il a fait le métier qui était le sien, etc. Donc il a accompli un certain nombre de choses, et il va arriver vers la dernière partie de sa vie, et là, il y a des personnes, qu'on appelle des renonçants, qui sont des personnes donc, qui se mettent en quête d'une vérité spirituelle, d'une vérité intérieure. Et il y a l'idée que la quête de cette vérité n'est pas compatible avec une existence sociale et familiale. Parce que l'existence sociale et familiale entraîne un certain nombre de préoccupations qui ne sont pas celles de celui qui a décidé de devenir un renonçant. Donc il devient un renonçant, un sannyasin, c'est-à-dire qu'il renonce à toute la vie, on pourrait dire, séculaire, pour ne s'intéresser plus qu'à atteindre lui-même un but spirituel. Alors ces personnes, ou bien se retirent dans les forêts, alors quand on dit forêt, bon, c'est à la fois des vraies forêts, hein, qui en Inde peuvent ressembler à des jungles, mais également à cette époque-là, on appelait finalement tout petit bosquet, même entre deux villes ou deux pâtés de maison, une forêt aussi. Enfin donc, ils se retirent, ils n'ont plus rien, ils se retirent dans la forêt, ou alors ils vont sur les routes. Donc, il devient un tel religieux errant. Il souhaite échapper au cycle de la transmigration, donc qui est ce dont je vous avais parlé au début, et pour ce faire, il décide de se livrer à une ascèse extrêmement radicale. Alors, il se rase la tête, ce qui était le cas de certains de ses renonçants, pas de tous, loin de là. Il se rase la tête et ce signe distinctif restera un signe distinctif dans tout clergé bouddhiste. C'est-à-dire que l'ensemble des moines et des nonnes bouddhistes, normalement, ont la tête rasée, ou au moins les cheveux extrêmement courts. Ce n'était pas le cas de tous les religieux de cette époque-là, ni même encore de l'époque actuelle en Inde, parce que, par exemple, dans la tradition, un certain nombre de... Dans certaines traditions, c'est l'inverse, ils laissent pousser les cheveux. Par exemple, les yogis sont désignés comme étant chevelus. Mais les bouddhistes, non. Alors, au fur et à mesure, il commence donc à se livrer à une ascèse très très forte, à des austérités, et on suppose qu'il a rencontré un certain nombre de sages qui étaient renommés, qui existaient dans l'Inde de son époque. Certains de ces sages, dont l'histoire a gardé le nom, avaient développé des systèmes qui déjà s'écartaient complètement, enfin complètement ou en partie, du brahmanisme rituel. Mais il n'est pas satisfait des réponses que lui donnent ces sages. Auprès de certains d'eux, il reste un certain temps comme disciple. Il se livre aux austérités, qui étaient quand même des austérités vraiment physiques et mentales, je dirais quand même très, très fortes, très lourdes. Hein. Notamment, il y avait à cette époque-là toutes sortes d'exercices de contrôle de la respiration, ou même d'arrêt. Enfin bon, on peut pas s'arrêter définitivement de respirer, mais en fait, il y avait vraiment des exercices d'arrêt de la respiration, et qui, paraît-il, bon, qui devait être fait d'une manière un petit peu encadrée quand même, mais qui était une véritable torture. Hein. Et donc, il se livre, alors évidemment, il se livre également à des austérités au niveau de l'alimentation. Il fait tout ça avec énormément de conviction, jusqu'à un niveau où son corps commence à être quand même relativement dégradé. Quand on voit dans la statuaire indienne, et ensuite chinoise et même japonaise, hein, il y a un certain nombre de statues spécifiques où on voit le Bouddha durant la période des austérités et on le prend vraiment comme une personne extrêmement maigre et avec un physique émacié et une sorte de fièvre intérieure dans le regard. Mais pourtant, il n'arrive pas. Il fait tous ces exercices yogiques et autres avec énormément de conviction, mais il n'arrive pas à trouver la délivrance qu'il cherche. Et il y a un moment où il se dit que ces austérités, ces macérations donc qu'il fait subir au corps et à l'esprit, c'est quelque chose qui va trop loin. Au bout du compte, c'est sans doute quelque chose qui est nocif, et il décide de recommencer à s'alimenter, et là, fort quand même de tous les exercices spirituels qu'il a pratiqués pendant plusieurs années, il s'assire, dans la tradition dit au pied d'un arbre, l'arbre de Bodhi, et il décide, après s'être lavé, restauré, etc., il entre en méditation, et il décide qu'il ne sortira de cela que lorsqu'il aura par lui-même trouvé en lui-même les réponses aux questions qui l'obsèdent, à cette recherche intérieure qui est la sienne. Il veut en finir une fois pour toutes. Alors là, je pense d'une certaine manière, et dans d'autres détails de sa vie, je pense qu'on voit quand même l'influence du milieu des guerriers dont il est issu. C'est-à-dire que quand même, il se comporte d'une certaine manière en stratège, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a un problème, à un moment donné, il y a un problème qui est identifié, il faut que l'on voit comment on peut résoudre le problème. Et en employant tous les moyens nécessaires. Alors donc, il s'assoit au pied de l'arbre, ce qu'on appellera par la suite l'arbre de la Bodhi. Il a renoncé aux austérités qui étaient en vogue parmi les ascètes à cette époque. Il s'est nourri, et là, il entre dans une profonde méditation, dans un profond recueillement. Si on reprend les textes bouddhiques, par exemple, il y a un certain nombre de textes qui décrivent cette époque, notamment un texte qui s'appelle le Vinaya Pitaka de Dharmagupta, c'est-à-dire la corbeille de l'éthique des protecteurs du Dharma. Après avoir purifié son esprit et l'avoir rendu souple et facile à conduire, c'est-à-dire qu'il a, c'est quelqu'un qui sait que qu'on ne peut pas, l'esprit produit des pensées sans cesse, une pensée, une nouvelle pensée, etc. Dans le bouddhisme, souvent on compare ça à un singe qui saute d'une branche à l'autre. Et donc, nous, on identifie l'esprit à la pensée qui est produite comme ça, mais le singe, il est en équilibre dans les branches seulement parce qu'il se déplace assez vite. Hein. Et donc, plutôt que de laisser l'esprit produire les pensées comme ça, je dirais, d'une manière naturelle, automatique et sans cesse, il y a l'idée qu'il faut au contraire guider l'esprit. Et donc, après avoir rendu son esprit, comme il dit, souple et facile à conduire, c'est-à-dire que c'est pas lui qui est mené par l'esprit. C'est lui qui mène l'esprit pour arriver à quelque chose. Il entre dans un recueillement extrêmement profond jusqu'à parvenir à ce que l'on appelle l'éveil. En fait, le mot Bouddha signifie l'éveillé. Alors, en quoi ça consiste, cette affaire, donc cet éveil? Les textes nous donnent quand même un certain nombre d'indications sur les différentes phases par lesquelles il est passé. Alors, une fois qu'il est entré dans cette méditation extrêmement profonde, avec son esprit qui est devenu très, comme on dit, souple et facile à conduire, très agile, très délié, la première chose qui va lui apparaître, mais qui est déjà quelque chose d'extrêmement important et qui signifie un très grand recueillement, il va se rendre compte de ce qu'a été l'existence qui a été la sienne et de toutes les existences qu'il a eues auparavant. Je vous avais dit la fois dernière, lorsqu'on avait étudié le phénomène de ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire les actes qui nous constituent, qu'il y a eu des causes qui ont été créées par nous-mêmes et que tant que ces causes n'ont pas rencontré dans l'environnement les conditions nécessaires à leur éclosion sous forme d'effet, elles restent en nous. Du point de vue de des doctrines bouddhiques, de la philosophie bouddhique qui s'est développée par la suite, en fait tout cela est localisé dans une certaine partie de la conscience. Et le fait de connaître la vie qui a été la sienne et les vies, les existences passées qui ont été les siennes, c'est le fait que cette partie de la conscience devient consciente. C'est-à-dire que d'un coup, cela lui apparaît. Alors je dis d'un coup, mais pourtant quand on lit le texte, c'est quand même un petit peu progressif. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste une existence, ensuite c'est l'existence d'avant, et ensuite c'est différentes existences. Donc parce que ce recueillement dans lequel il est entré a été quand même quelque chose qui a duré, je crois, assez longtemps, quand même, quelques jours. Hein. Donc ce n'est pas c'est pas comme ça, quoi, ce n'est pas immédiat. Si on regarde de l'art bouddhique, hein, je me rappelle notamment avoir vu à Paris, au musée Guimet, de très belles, je crois que c'était des gravures ou des peintures indiennes anciennes. Souvent, c'est représenté d'une manière qui est assez drôle, parce qu'on voit le Bouddha qui est en méditation, donc qui est assis en tailleur au pied de son arbre, et puis finalement devant lui, on voit toute une rangée de bonhommes qui se tiennent, mais vraiment quand je dis une rangée, c'est comme un mur en fait, hein, qui se tiennent les uns côte à côte, et donc c'est des personnages qui sont représentés avec toutes sortes de détails, et ce sont toutes les existences qu'il a eues auparavant. Et en face, dans les cieux, etc., il y a les attaques du démon de l'illusion qui fonce sur lui, qui envoie des sortes de boules volantes ou d'éclairs ou des choses comme ça, etc. Alors attention, tout ça est symbolique et imagé, hein. Et finalement, il y a toutes les vies qui ont été les siennes, et donc les causes qu'il a créées dans les existences passées qui ont été les siennes, et qui se tient comme un rempart entre ce personnage qui est assis et qui est immobile, tous les autres personnages qui ont été les vies, qui ont été les siennes, qui sont debout, et puis de l'autre côté, les démons en furie qui se déchaînent. Alors, cela est une représentation religieuse et imagée, hein, mais donc, il accède à la connaissance de toutes ses vies et de son passé. Et il n'est plus simplement, du coup, identifié à l'existence qu'il est actuellement. C'est le premier recueillement dans lequel il entre. Le deuxième recueillement, c'est encore pire, il accède non seulement à toutes les existences qui avaient été les siennes et qui est la sienne actuellement, mais il accède à toutes les existences. C'est-à-dire non seulement il n'est plus seulement lui-même, il est et lui-même et les autres. Il comprend dans toutes les existences qui existent, qui fait que ça se passe comme ça se passe. Les règles qu'il y a dedans. C'est le deuxième recueillement auquel il arrive. Donc, que tout le monde, c'est pas une expérience commune, hein. Et le troisième, ce sera le dernier recueillement auquel il arrive, c'est-à-dire qu'il comprend l'origine de la souffrance. C'est le troisième recueillement. C'est-à-dire qu'il comprend à partir de ce qu'a été sa vie, de ce que sont les autres vies, et de sa vie et des autres vies, il se dégage de la souffrance. Et vis-à-vis de cette souffrance, qu'il voit, et qu'il voit de manière active, il voit quelle est l'origine de cette souffrance. Quand je vous ai parlé la fois dernière du dharma, j'ai dit que bien que ce soit une chose qu'on pourrait dire unique, unitaire, en fait, nous, dans la manière dont nous le percevons au niveau individuel. Donc, on peut dire que, par exemple, à mon niveau, c'est l'éthique, par exemple, au niveau de chacun de nous, hein, la morale. Au niveau, collectif, au niveau de la société également, il y a ce qui doit être juste, etc. Et on pourrait dire au niveau global ou environnemental. C'est-à-dire qu'il y a également des règles, par exemple, je sais pas, dans le cours des astres, dans la matière, dans le défilement des saisons. Tout ça, ça se passe pas n'importe comment. Au même titre que la vie individuelle doit obéir à certaines règles, alors que ce sont des règles ou édictées ou des règles vraiment individuelles, hein, si vous êtes de soi-même, que la vie collective également, c'est encore d'autres règles, et l'environnement, c'est encore d'autres règles. Mais le bouddhisme voit ça comme étant, à trois niveaux, comme étant une même chose. Et dans ces trois éveils, en quelque sorte, ces trois prises de conscience, dans le bouddhisme, on appelle ça les trois sciences auxquelles arrive le Bouddha, vous voyez qu'on se situe effectivement à ces trois niveaux-là aussi. C'est-à-dire que la première, c'est la prise de conscience de son existence ou de ses existences, c'est quelque chose qui est individuel. Son existence ou ses existences, c'est quelque chose qui est individuel, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Au niveau d'un coup, il comprend ce que sont les autres êtres, hein, tous les autres êtres, hein. Là, on est donc là, c'est au niveau des êtres. Hein. C'est bien au niveau collectif. Et ensuite de quoi, il comprend la règle de tout cela et la règle qui génère la souffrance. Et là, c'est bel et bien environnement, je ne sais pas si c'est le bon terme, si vous voulez très clair en français, mais comprend les règles qui sont appliquées aux choses. Parce que le dharma, au niveau de l'environnement, je crois que c'est un peu trop moderne, c'est pas excellent comme terme, mais donc c'est ce dont rencontre, par exemple, la science, la connaissance de la matière, la connaissance des choses. Donc à ces trois niveaux, donc qui sont le niveau individuel, collectif, et on pourrait dire le niveau des concepts, parce que finalement, quand l'idée que l'on a de la matière, l'idée que l'on a des choses, c'est qu'on est passé à un niveau qui est conceptuel, purement conceptuel. Une certaine partie de la philosophie, évidemment, est à ce niveau-là. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on voit bien qu'il y a une différence entre ce qui est du niveau de la morale, de la vie en commun, et de ce que l'on connaît du monde. Et donc, la troisième chose se situe à ce niveau-là. Plus tard, dans le bouddhisme chinois, entre ces deux choses, il y a, pour désigner cet éveil, ça ne peut être simplement un problème, mais de comprendre le ressort profond des autres vies, il y a un concept, alors bon, je ne vais pas sortir un petit peu de notre cadre, mais enfin je dis ça pour ceux qui ont déjà des bases en bouddhisme chinois, c'est le concept de une pensée 3000. Tant qu'il est qu'à ce niveau-là, il n'est que une pensée, sa propre pensée à lui, pensée unique à lui. Et d'un coup, quand il passe au niveau global, il n'est plus seulement lui-même, mais il est d'autres existences qu'on appelle les 3000. Donc, l'éveil auquel il est parvenu se situe successivement à ces trois niveaux. Et donc, du coup, il a la connaissance complète du dharma. Sur les trois niveaux où le dharma se décline. Alors, il semblerait, il connaît du coup, il est parvenu au but qui était le sien, parce que il sait maintenant ce qu'est la souffrance et l'origine de la souffrance. Et donc, c'est à partir de là qu'il va peut-être, je dirais, développer un enseignement. Peut-être parce que il a une période où il se demande si il peut en parler avec les autres hommes. Ou alors devenir, comme j'avais dit au début, cette espèce de renonçant qui vont vivre dans la forêt, ou si maintenant qu'il a trouvé pour lui la solution, il ne va pas simplement se retirer dans une forêt ou une montagne ou quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il peut en parler aux autres hommes? C'est-à-dire, est-ce que cette expérience-là est communicable? Parce que c'est quelque chose qu'on apprend dans le bouddhisme, c'est que les mots sont des outils qui sont pratiques, mais c'est un outil. Et c'est un outil qui a également ses propres, la langue, qui a également ses propres spécificités. Et donc l'expérience dont on parle ici est probablement une expérience qui est complètement au-delà des mots. Et donc s'il faut le communiquer à d'autres hommes, donc le communiquer ça veut dire être compris. S'il faut le communiquer à d'autres hommes et être compris et faire que eux également puissent parcourir le même chemin que lui il a parcouru, de quelle manière on s'y prend pour faire ça? Et donc il a sans doute, d'après les textes, un certain temps d'hésitation, savoir s'il doit le communiquer à d'autres hommes. Ou alors, s'il y a des hommes qui sont vraiment, qui veulent également se sortir du cycle de transmigration, eh bien ces hommes feront la même expérience que lui, donc il n'a peut-être rien à leur dire. Au même titre que lui a eu l'expérience qui a été la sienne, parce qu'il a été extrêmement acharné et désireux d'avoir la solution, eh bien s'il y a d'autres hommes qui sont également acharnés, eh bien d'autres hommes trouveront peut-être aussi la solution. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'un enseignant comme le Bouddha, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui laisse un enseignement. Donc, il a une période d'hésitation et il la tranche en décidant qu'il va parler aux personnes. Il va parler aux hommes et il va les aider à résoudre ce problème de la souffrance de l'existence. À partir de ce moment-là, il devient ce qu'on appelle le nom sous lequel nous le connaissons, c'est-à-dire le Bouddha. Alors, Bouddha exactement, comment dirais-je, ce n'est pas un nom propre, ça signifie l'éveillé, au même titre que, c'est d'ailleurs souvent une comparaison qui est faite dans le bouddhisme, le dormeur, celui qui est en train de faire un rêve, il lui arrive toutes sortes de choses dans son rêve, en fait, un rêve agréable ou un cauchemar, mais il n'a pas les capacités d'action, de réaction que l'on a dans la vie normale, dans la vie à état de veille. Et donc, pour le Bouddha, pour décrire la différence entre l'état de conscience auquel il est arrivé et l'état de conscience normale des hommes, il use de la même métaphore, il dit que c'est la même différence entre l'état de celui qui rêve et l'état de l'homme éveillé. Donc, il s'est éveillé au principe, et dès lors, il a une capacité d'action qui est tout à fait supérieure à celle des hommes ordinaires et à celle qu'il avait auparavant, au même titre que l'homme éveillé a une capacité d'action qui est tout à fait supérieure au dormeur. Alors, il se porte vers Bénarès, il n'était pas très loin de cette grande ville, et en arrivant à Bénarès, il arrive dans un parc, et là, il aurait rencontré cinq religieux, cinq hommes assez jeunes, qui avaient été des co-disciples à lui, qui avaient été des compagnons d'études, lorsque lui s'était rapproché, pendant toute cette période, on pourrait dire, d'initiation, de différents maîtres brahmanes, dont il avait recherché l'enseignement. Donc, ces cinq garçons qui le connaissent, pour eux, il est quelqu'un qui a abandonné la voie, c'est-à-dire que eux, ils continuent les austérités d'une manière extrêmement dure, et lui, à l'inverse, il est un homme, quand ils l'ont laissé, c'est un homme qui a renoncé, qui a recommencé à s'alimenter normalement, etc. Et donc, il va vers eux, et au début, d'après les textes, eux comptaient lui réserver un accueil un peu froid, mais finalement, dès qu'ils commencent à parler, qu'ils voient à qui ils ont affaire, qui est différent de la personne qui avait été leur condisciple, leur attitude change et deviennent immédiatement ses disciples. Et auprès de ces personnes, il fera l'un des tout premiers sermons, ce sont des choses qui sont maintenant consignées en ce qu'on appelle les sutras, c'est-à-dire les textes bouddhiques qui sont les recueils des paroles du Bouddha, ou du moins des séances durant lesquelles il a délivré son enseignement. Et il leur donnera quelque chose que nous apprendrons nous dans quelques séances, qui s'appelle les quatre vérités, et qui est le premier enseignement bouddhique. Alors c'est un enseignement bouddhique qui permet d'aborder les doctrines bouddhiques, et en fait qui est à la limite, on pourrait dire, du bouddhisme et du non-bouddhisme. Je ne dis pas que ce soit de la vulgarisation pour autant, loin de là, mais c'est un premier enseignement destiné à des non-bouddhistes. Et ces personnes donc sont gagnées par les doctrines qu'il développe, également par sa prestance. C'était également un pédagogue hors pair. La preuve, c'est que nous en parlons ce soir, hein, vraiment très longtemps après. Et ils deviennent ses disciples. Ils deviennent ses disciples et ils vont fonder l'embryon de quelque chose qui est très important dans le bouddhisme, qui est la communauté des religieux. Donc là, ils ne sont que six, hein, donc il y a lui, puis les cinq disciples. Donc la communauté, qui en français se dit Sangha. Alors, cette communauté est dans le bouddhisme quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on va voir que cette communauté a un certain nombre de règles et un certain nombre de caractéristiques. Alors, la première que l'on va voir, c'est que dans cette communauté, il avait quand même l'idée de, je ne sais pas comment dire, mais de recréer dans la société une société différente. Donc, dans cette Inde, hein, qui est l'Inde des castes, il fonde finalement un groupe, qui est le groupe des gens qui lui sont rattachés, et déjà, dans lequel la notion de caste n'existe plus. Toutes les personnes qui sont là sont des disciples, hein, qui parviennent à différents niveaux de maturation, mais ces personnes ne sont plus désignées par la caste à laquelle ils appartenaient. Donc dans l'Inde de l'époque, c'est quelque chose qui est tout à fait qui est vraiment étonnant. Et donc tous ces gens deviennent comme lui, du moins pour ceux qui se transforment en religieux, parce qu'il y a également une communauté laïque qui va exister ensuite, deviennent ce qu'on appelle des moines mendiants. Alors, il faut expliquer un petit peu cette notion qui est à la base du bouddhisme monastique et religieux. Donc, ces moines mendiants sont des personnes qui ne possèdent pratiquement rien, sinon le bol à aumône qui est le leur, et le vêtement qui est le leur, et en fait, qui doivent mendier leur nourriture. Alors, il faut voir que dans l'Inde de l'époque, dans les conceptions, le fait d'être un mendiant n'est pas du tout quelque chose de péjoratif comme notion. Hein. C'est pas quelque chose de rabaissant, c'est pas quelque chose d'humiliant. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de sages qui mendient. Et donc, c'est une chance pour les laïcs, qu'on appelle les maîtres de maison, c'est-à-dire les gens qui ont une famille, qui ont un métier, etc., que de donner de la nourriture à ces personnes-là. On ne leur donne que de la nourriture, hein, rien de plus. Hein. Il n'y a pas de... ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas... Donc, pour que ces personnes-là puissent continuer à vivre et à rechercher le... et effectuer la recherche spirituelle qu'est la leur. Les bouddhistes, du moins les religieux bouddhistes, hein, vont se développer sous la forme comme ça de moines mendiants. Le Bouddha lui-même était un moine mendiant. Ce sont des personnes qui en fait vont mendier le peu de nourriture qu'ils consomment chaque jour, je crois jusqu'à midi ou jusqu'à 2 heures, je m'en rappelle plus, enfin bon, jusqu'à une certaine heure de la journée, en fait de quoi ils font le repas qui est de ce bol de riz et puis de quelques légumes qui étaient le leur, et ensuite ils ont toute l'après-midi, toute la soirée et toute la nuit s'ils veulent pour méditer, et ensuite de quoi ils recommencent le lendemain. Ces gens en fait vont vivre avec le Bouddha et se déplacent avec lui, ce qui va être la première d'ailleurs propagation et expansion du bouddhisme, qui va être au fil finalement de ces déplacements de ce petit groupe. Ce petit groupe également va essaimer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rejoindre la communauté, la Sangha, qui vont y rester un certain temps et qui vont repartir et qui eux-mêmes créeront une autre Sangha. Enfin, une autre, c'est pas une autre, qui c'est comme une bouture, hein, si vous voulez. Et donc, au fur et à mesure, il va y avoir quand même une propagation du bouddhisme, de son vivant, qui va être quelque chose d'assez important. Et sachant qu'il recrée une sorte, comme je vous dis, de microcosme, de petite société à société, mais qui n'obéit plus du tout, finalement, aux règles de la société. Lui-même, d'ailleurs, quelqu'un qui émanait de la caste des Kshatriyas, il y a beaucoup de ses grands disciples qui sont des gens qui viennent de la classe des Brahmanes. Donc, pour les gens qui voyaient ça de l'extérieur... surtout s'ils étaient assez rigoristes et enfoncés dans les croyances du brahmanisme, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait cette personne qui était un kshatriya, donc un guerrier, qui était le maître de disciples qui, eux, étaient des brahmanes. Mais, parmi les grands disciples, c'est également des gens qui viennent des castes les plus basses de la société, mais qui sont exactement au même rang que les autres. Alors, ça va être une première chose donc va au niveau de la Sangha que va créer le Bouddha et qui a dû surprendre énormément de ses contemporains, et puis il va y en avoir une deuxième, alors là qui non seulement va les surprendre mais va sans doute leur couper la parole, c'est que à partir d'un certain moment sur l'insistance de sa mère, je crois, de sa tante et également de sa femme, il va admettre les femmes dans la Sangha. Alors là, c'est la fin du monde qui commence. Hein. Donc là, les gens, quand même beaucoup ont été quand même très très surpris. Et donc, il va créer un ordre, je ne sais pas comment dire, de nonnes, qui va avoir les mêmes règles que l'ordre des moines. Et donc, qui vont être, alors là, des femmes, donc qui vont également échapper, d'une certaine manière, à la vie et familiale et sociale. pour devenir des femmes itinérantes. Par la suite, il y aura également la création de monastères. Donc là, on voit que finalement, en très peu de temps, il crée un mode de vie pour les gens qui vont le suivre, qui est complètement en dehors des normes sociales et traditionnelles de son pays. Effectivement, il n'avait pas été le seul à ne pas respecter le système des castes. Il y a d'autres penseurs de son époque qui commençaient à trouver que c'était quelque chose qui devenait extrêmement suranné. Mais le fait d'admettre dans une communauté monastique des femmes, je pense qu'à son époque, c'était vraiment le seul. Et même à l'intérieur de la communauté bouddhique, même pour ça, il a été extrêmement critiqué. Et c'est normal, parce que là, on touche vraiment aux choses... les gens, ils veulent bien suivre jusqu'à un certain point, mais passer un certain point, ça leur semble vraiment aberrant comme histoire. Mais enfin, il avait sans doute une certaine autorité sur l'ensemble de la communauté, et il a fait passer ces choses, quand bien même il y a eu parfois des oppositions assez fortes. Alors, il se développe également une communauté de croyants laïcs, donc qui sont des personnes qui suivent un certain nombre d'enseignements du Bouddha, mais qui restent ce qu'on appelle dans la famille, c'est-à-dire qui ne vont pas vers cette vie d'errant, vers la vie monastique. Et donc, ces personnes se recrutent dans les différentes classes, et notamment parmi eux, il y a eu quand même pas mal de marchands, ou même de gens extrêmement fortunés à l'époque, et notamment qui ont fait don de terrain au Bouddha, et qui lui servaient avec son petit groupe de moines qui le suivaient pour passer la saison des pluies. Parce que l'Inde, le nord de l'Inde, est sujette à la mousson, et il y a pendant quelques mois des pluies extrêmement violentes. Et donc le Bouddha avait décidé de s'arrêter de marcher durant ces périodes de pluie, et donc il déboulait dans les parcs qui avaient été mis à leur disposition par ces laïcs pieux, et ils construisaient des sortes d'abris de fortune dans lesquels ils restaient, et où le Bouddha enseignait. Et là, il y avait, à une certaine heure de la journée, quand même, des gens qui venaient de l'extérieur, qui le rencontraient, on voit tout à fait ça dans les différents textes bouddhiques, qui lui posent des questions et qui le rencontrent dans ces parcs. Cette communauté se structure, il y a des règles qui sont édictées et qui ont été sans doute nécessaires parce qu'il va y avoir vraiment toutes sortes de personnes qui arrivaient là-dedans. Parce que quand même, la Sangha, donc la communauté bouddhique, était quelque chose d'assez accueillant. Et les personnes n'étaient pas, n'étaient pas refoulées. Et parmi les gens, il y avait vraiment toutes sortes de personnes. Il y avait même eu des bandits qui en ont fait partie. Enfin bon, j'espère qu'ils n'ont pas continué, une fois qu'ils ont fait partie de leurs activités délictuelles. Mais il y a toutes sortes de personnes qui arrivaient. Et donc, il fallait qu'il y ait des règles pour que tout ça puisse vivre ensemble, parce que sans ça, ça aurait été quand même délicat. Et au fur et à mesure, même si ce n'est que sous une forme orale à l'époque, parce qu'il n'y a pas encore de bouddhisme écrit à cette époque-là, mais il y a développement vraiment d'une doctrine, en fait, qui est ce que nous verrons au fur et à mesure des différents cours, mais une doctrine tout à fait spécifique qui commence à être édictée et qui a ses points de force et qui commence même à être repérée de l'extérieur. C'est-à-dire que de l'extérieur, il y a des personnes, souvent qui sont des gens qui ont eu des débats avec les bouddhistes, hein, ou qui s'y sont intéressés, mais qui commencent à avoir une idée de ce que c'est comme doctrine. C'est-à-dire que c'est effectivement un petit groupe qui voyage comme ça, centré autour de la personne du Bouddha. En général, ils sont, de ce que nous disent les textes, à quelques exceptions près, très bien reçus. Moi, c'est le sentiment qu'on a, c'est-à-dire que l'Inde de cette époque est quand même tout à fait accueillante à des personnes comme lui ou d'autres de ses contemporains qui sont devenus des sortes de maîtres à penser. Et la plupart des personnes pensent que l'on peut avoir de la relation avec ce genre de maître à penser, quelque chose de tout à fait positif pour soi-même. Alors, il va mener cette vie d'itinérant qui se fixe dans des endroits pour, durant la saison des pluies, qui forme des disciples. En fait, quand on lit les textes bouddhiques, on se rend compte que c'était vraiment un pédagogue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tenu compte des personnes qui étaient en face de lui, qui a écouté les questions et puis qui les a quand même bien guidées. Il va donner un enseignement, d'ailleurs c'est propre justement à cette pédagogie, dans lequel il y a différentes périodes. Il y a différentes périodes et parfois il y a même des enseignements qu'on pourrait dire qui sont contraires à ce qui a été dit précédemment. Mais ça c'est le fait de l'acquisition de n'importe quelle science. C'est qu'il faut bien commencer par des fondamentaux, rudimentaires parfois, et puis au fur et à mesure ça se développe, et puis plus ça se développe, plus on se rend compte que ben, les fondamentaux, ils n'étaient peut-être pas si fondamentaux que cela au début, et il convient de les revisiter. Il arrive ainsi à la fin de sa vie, il tombe, la tradition nous dit qu'il aurait vécu jusqu'à 80 ans, donc en ayant cette vie itinérante. On n'a aucun élément qui nous permette d'infirmer ou de confirmer, d'un point de vue historique, d'infirmer ou de confirmer ça. Enfin, il semblerait qu'il ait vécu assez vieux pour l'époque, hein, parce que 80 ans, c'était quand même, on est quand même vers la fin de sa vie, c'était le 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein, donc, vers la fin de sa vie, donc, il aurait donné ses dernières instructions à ses disciples. Il répond à leurs dernières questions et il s'éteint paisiblement. C'est ce que les bouddhismes appellent le grand nirvana. Nirvana, c'est l'extinction. Et donc, il s'éteint. Alors, ce qui reste de ce personnage, donc le Bouddha, de son vivant, a profondément marqué l'ensemble de la culture, en premier de l'Inde, et puis ensuite, quand le bouddhisme, enfin, ça, c'est là, c'est plus de son vivant, mais après, c'est répandu de l'ensemble de l'Asie, voire du monde. Le succès de la diffusion du bouddhisme tient à la fois à ses enseignements, mais également à la puissante personnalité de son fondateur. Ce que je vous disais au début sur tous les faits légendaires qui lui ont été mis en plus, ou Le deuxième étage, ici l'étage de toutes les légendes, tout ce qui a été rajouté en plus sur ce personnage, et bien malgré tout cet enrobage, la personnalité, au travers des textes, au travers de certaines réponses qu'il a faites à des personnes, la personnalité même du Bouddha ressort. C'est-à-dire que c'était une personnalité extrêmement puissante, bienveillante, et malgré tout ce qui a été rajouté, je pense que c'est encore quand on lit les textes, par exemple, je vous ai cité le Dharmapada tout à l'heure, c'est quelque chose qui est encore sensible. Il est devenu également le modèle de ce qu'on pourrait appeler un nouvel idéal humain. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait dans la société indienne l'idéal du brahman, éventuellement du guerrier valeureux à la guerre. Il y avait également le modèle du renonçant, mais lui, il devient à la fois quelqu'un qui a été un renonçant, qui a été quelqu'un qui a trouvé une ou la vérité, je ne sais pas, et également quelqu'un qui est capable de l'enseigner et qui rassemble autour de lui un certain nombre de personnes. Dans tout la plupart des textes que l'on a, on constate qu'il y a à la fois une intelligence extrêmement vive qui s'exerce, même souvent qui peut désarçonner l'interlocuteur, et également une compassion très active. Donc je crois que c'est les deux traits qui le caractérise, c'est-à-dire le mélange, qui était finalement assez rare, de l'intelligence et de la compassion. À chaque fois, il dispense son enseignement d'une manière qui est différente, et le but, c'est de faire progresser les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement qui est... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'écrit. Au début, il n'y a pas d'écrit dans le bouddhisme. Ce n'est pas un enseignement qui se fait comme ça pour les générations futures ou quoi que ce soit. Si on arrive déjà à former les gens, s'il arrive déjà à former les gens qui sont ses interlocuteurs maintenant, c'est déjà la première chose. Si ceux-là arrivent à quelque chose, eux pourront transmettre quelque chose. Alors, en fait, ce personnage était très très différent du personnage justement légendaire qu'on a fait est tel que vous pouvez le voir par exemple dans le dans la statuaire de la vie. Alors cette statuaire, d'une part, elle a été marquée par ce qu'on appelle l'art gréco-bouddhique, qui était un mélange de l'art grec avec l'art indien à la suite des invasions d'Alexandre, qui avait laissé un certain nombre de petits rois, de généraux, pour gouverner une partie de l'Inde derrière lui. Donc il y a eu des contacts entre la société grecque, enfin même c'était par voie d'invasion, hein, et la société indienne à cette époque-là. Et il y a un art assez original qui en est sorti, qui est d'ailleurs de toute beauté, qui est ce qu'on appelle l'art gréco-bouddhique. Vous en avez plusieurs exemples, notamment à Paris, au musée Guimet. Le personnage que l'on a là du Bouddha est un personnage qui est déjà hellénisé, qui a sans doute quelque chose d'un peu plus athlétique que c'était le Bouddha, enfin en meilleure, présente plus massive. Et puis après, quand on est passé dans la statuaire bouddhique telle qu'on la trouve en Extrême-Orient, parce que beaucoup de choses que nous connaissons maintenant du bouddhisme, c'est à travers la culture chinoise, et les pays qui ont été dans l'orbite de la culture chinoise, comme le Japon, le Vietnam ou la Corée. Alors là, vous avez vraiment des bons gros bouddhas, hein. Maintenant on en fait des lampes de chevet, une sorte d'objets décoratifs en vente ici dans les boutiques. Mais donc il y a le personnage qui est assis d'une manière assez pesante, assez gros, avec des traits un peu mous, et des cheveux ondulés en général, qui retombent, ou une sorte de chignon sur la tête. Le personnage réel, lui, était très différent de cela, en ce sens, c'était sans doute un homme plus nerveux, beaucoup plus mince, et il avait le crâne rasé. Alors ce que je dis, ce n'est pas d'un point de vue esthétique, mais je pense que l'idée qui a été laissée du Bouddha a subi les mêmes transformations que ce que la statuaire a voulu en faire, c'est-à-dire qu'on a voulu en faire une sorte d'idole pour les foules, et donc en faisant une idole, on a voulu parer cette idole de toutes les qualités qui pouvaient être celles de ce que désiraient les gens. Et donc, à la place de l'ascète qu'il a été, ben finalement, on a fait une sorte de Père Noël, là, un petit peu comme ça. Pour revenir au personnage lui-même, donc, de ce que l'on en connaît, il n'a rien écrit. Donc, c'est quelqu'un qui a fait confiance, parce que les écrits existaient, hein, à son époque, hein, et lui-même était quelqu'un qui savait écrire. Il n'a rien écrit. Donc, tout l'enseignement que l'on a, et l'enseignement qui a été, après sa mort, compilé par ses disciples, notamment l'un d'eux qui était son cousin, qui s'appelait Ananda, et qui était un homme qui avait une excellente mémoire, et qui lui a servi un petit peu tout au long de sa vie, d'accompagnateur, de secrétaire. Et donc, beaucoup de sutras, c'est-à-dire commencent par la phrase « Ainsi ai-je entendu ». Et donc, ce sont effectivement des personnes qui ont été auditeurs du message du Bouddha et qui le retranscrivent. Après la mort du Bouddha, il y a eu un certain nombre de conciles, de compilations qui ont été faites, et il y a eu différentes sessions comme ça pour voir qu'est-ce que dans ce premier canon bouddhique qui allait rester par écrit. Ceci dit, quand on regarde de quoi est constitué le canon bouddhique aujourd'hui, donc c'est énormément de livres, hein, la plupart, en fait, ça a mis des siècles à se faire. Ce ne sont pas du tout des choses qui se sont faites directement après sa mort. Un dernier mot sur cette problématique essentielle de la pensée indienne dont je parlais au début, pour échapper à ce cycle de la transmigration. On peut dire que le Bouddha a pris à bras le corps, en quelque sorte, cette problématique. Il en a fait la sienne, il en a fait celle de son système, et il veut répondre. Il cherche là-dedans un point d'ancrage à nos existences, et de par la sorte, il réinterprète la doctrine qui existait déjà avant lui, qui est la doctrine donc du karman, dont je vous ai parlé la fois dernière, c'est-à-dire des actes. Il s'est élevé contre l'idée de l'assimilation du karman à une notion de destinée. C'est-à-dire que les actes créée dans le passé conditionnerait la vie actuelle d'une manière inéluctable. Et donc la personne n'aurait plus qu'un rôle de spectateur, c'est-à-dire que vu les actes qui sont en lui, il y a des choses qui vont se produire dans son environnement, qui vont être, qu'on peut appeler des rétributions, et lui, il est juste quelqu'un qui subit ces rétributions. Il s'est élevé contre cette notion, parce que dans le même temps, chaque instant est créateur de cause. Donc ce n'est pas une sorte de compte qui est arrêté une fois pour toutes, et il n'y a plus que le résultat à voir, mais il y a le résultat qui arrive, et vis-à-vis de ça, il y a des causes qui sont créées, et ces causes elles-mêmes dépendent des résultats, des conditions de l'environnement, de ce qui se passe dans l'existence actuelle. Et on sait qu'il s'est beaucoup opposé à un certain nombre de penseurs indiens de son époque ou antérieure qui pensaient justement que la notion de karma, c'est des actes, c'était quelque chose d'inéluctable. Notamment l'un d'eux, qui s'appelle un certain Gosala, qu'on trouve également dans d'autres textes sous le nom de Makali, avait comparé cette notion du karman à une bobine de fil qui se dévide. C'est-à-dire qu'on tire sur le fil, on ne sait pas la longueur qu'a le fil, mais il y a un moment où ce sera entièrement dévidé, il n'y aura plus de fil. Et donc, lui, il disait, se nommait Makali, il disait que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en fait, on tire sur le fil. Et pour sortir de cela, il faut attendre que le fil soit entièrement dévidé. Et donc, là, quelque part, on n'est que spectateur d'une certaine manière. Quels que soient les actes qu'on fasse, il y a cette espèce de destinée. Et le Bouddha était tout à fait contre cette idée, et il le critiquait de manière qui est assez drôle. Dans beaucoup de textes bouddhiques, on trouve des choses qui sont souvent un petit peu amusantes. Hein. Et il dit, de même que de tous les tissus qui existent, le crin est le pire, donc le crin qui est fait à partir de, je sais pas quoi, je crois, de poils de chevaux ou quelque chose de similaire, hein. Car un tissu de crin, au disciple, est froid par le froid, chaud par le chaud, de couleur sale, d'odeur repoussante, de toucher rugueux. Ainsi, au disciple, de toutes les doctrines des autres ascètes et des brahmanes, la doctrine de Makali est la pire. C'est-à-dire qu'il a vraiment pensé qu'une doctrine, qu'elle soit juste ou non, mais qui réduit l'homme à être spectateur de son propre destin, est vraiment ce qu'il y a de pire. Et c'est pour ça que souvent, j'entends parler du bouddhisme, hein, ou de certaines doctrines de l'Inde ou de l'Extrême-Orient, où on parle de fatalisme. Le Bouddha est quelqu'un qui s'est élevé contre le fatalisme. Une certaine forme de fatalisme, comme l'histoire de la bobine qu'on dévide, que je vous ai racontée, existait à son époque. Et il s'est tout à fait élevé contre ça. Sur le personnage lui-même, d'un point de vue global, il y a actuellement auprès des spécialistes deux conceptions, c'est-à-dire qui ne sont pas antagonistes l'une de l'autre. La première qui le présente, je dirais, dans le monde indien, on pourrait dire, et qui le présente comme une sorte de réformateur du brahmanisme. De réformateur malheureux, parce que finalement il n'a pas réformé le brahmanisme. Enfin, les gens qui ont suivi sa doctrine ont échappé au brahmanisme, mais l'Inde, elle a continué dans le brahmanisme. Et donc c'est une première notion, c'est une sorte de penseur du monde indien qui aurait repris un certain nombre de concepts qui existaient traditionnellement avant lui, qui les aurait modifiés, et dont le succès finalement, dans un premier temps, s'est fait en Inde, et ensuite s'est fait hors de l'Inde. Et actuellement, le bouddhisme, comme on l'avait vu la fois dernière, n'existe pratiquement plus, presque plus en Inde. Donc il n'aurait eu que ses succès à l'étranger. Et une autre conception en fait un homme qui a été un peu le vecteur, l'apport de pensée non indienne dans la pensée de l'Inde. Parce que justement, c'est un homme des frontières, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est à la limite du monde indien. Il est au contact de la vie et enfin au moins déjà de par la région d'où géographiquement il est issu, et on pense qu'il a peut-être été touché par un certain nombre d'idées qui existaient dans le monde asiatique et qui n'existaient pas forcément dans le monde indien, et que lui en aurait été le vecteur dans le monde indien. Alors, entre ces deux vues, je me permettrai de ne pas trancher. parce que tout ça, en fait, c'est des suppositions que nous faisons maintenant, parce que si lui, il entend être ça, ça l'amuserait beaucoup. Mais donc, j'essaie de vous présenter, lors de cette session, ce personnage du Bouddha. On n'a pas encore abordé la doctrine, hein, mais on est obligé de procéder un petit peu étape par étape, hein, pour mieux comprendre. Et la fois prochaine, donc qui se tiendra le 2 mars, hein, on étudiera, pour mettre un petit peu en parallèle, une autre réponse, hein, qui était donnée à la même époque que le bouddhisme, à cette problématique de l'Inde antique, qui est le jaïnisme, qui est notre religion de l'Inde, qui est née à la même époque que le bouddhisme, la religion des jaïnes. Et on comparera un petit peu les deux réponses qui ont été données, donc d'une part par le bouddhisme, d'autre part par le jaïnisme, pour dégager quelques concepts importants, quelques tendances fortes des deux doctrines à la fois. Ce qu'on essaiera de faire la fois prochaine. Et ben maintenant, si vous voulez, comme on l'a fait la fois d'avant, je veux bien, si je peux, hein, répondre aux questions, aux réflexions qui sont les vôtres. Ben, il est mort, il s'est éteint, il était en voyage, il s'est arrêté, il s'est allongé, il a donné ses derniers enseignements aux disciples, il leur a dit d'ailleurs, profitez-en, hein, posez-moi des questions maintenant, parce que tout à l'heure, ce sera moins bon. Et donc, il a répondu aux dernières questions. L'une des dernières choses, quand même, qu'il a dites, et qui est un message qui est très, très, très beau, à l'un de ses disciples favoris qui était avec lui, donc qui était la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Ananda. Cet homme, donc, qui était son cousin, qui a vécu avec lui toute cette aventure, parce que c'est une aventure qui a quand même duré plusieurs décennies, hein, était évidemment extrêmement triste de perdre son maître, son ami. Et donc, il était en larmes, et Ananda lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans vous? Ou sans toi, je ne sais pas si c'est toi ou si je vous voyais. Et le Bouddha lui a dit, eh bien, quand je ne serai plus, Ananda, il faudra que tu sois ta propre lumière. Et ça, c'est l'un des testaments, hein, à l'autre, que le Bouddha a laissé à ses disciples, c'est-à-dire qu'il leur a demandé d'être leur propre lumière. Il y a toute une partie dans certains textes, hein, on dit qu'il serait mort après avoir, il serait arrivé donc avec ses disciples, je ne me rappelle plus le nom, mais chez un homme assez pauvre, en pleine forêt, qui était une sorte de forgeron, de bûcheron, je ne me rappelle plus exactement, et cet homme leur aurait préparé un plat de choses que normalement les recettes de cette époque-là ne mangeaient pas. Alors dans cette tradition, on dit que c'est du porc, dans d'autres que c'est des champignons, peut-être que c'était un plat de porc aux champignons, j'en sais rien, ou peut-être que c'était complètement autre chose, hein, parce que tout ça, c'est peut-être imaginé après coup, et que le Bouddha aurait quand même tenu à manger ce que cet homme avait préparé, même si c'était contraire à ce que les ascètes se nourrissaient à l'époque, et on pense qu'il serait peut-être mort après ce repas, je sais pas si les champignons étaient empoisonnés ou pas, mais enfin, ça, c'est bon, c'est peut-être c'est complètement imaginaire comme histoire, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on a fait de son corps?
Ah, en fait, il semblerait que après son extinction, comme c'était de coutume à l'époque, son corps a été brûlé et probablement enterré un peu n'importe où. C'est-à-dire qu'à l'époque, contrairement à ce qui s'est passé par la suite, il n'y avait pas tellement de coutumes funéraires. On est quand même au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est des époques quand même anciennes. Et après, par contre, il y a beaucoup de gens qui ont cherché ces restes. Certains les ont trouvés, même finalement qu'on voit le nombre de reliques qui est encore à l'heure actuelle. Donc il n'y a plus que ce qu'un corps peut donner. Mais il semblerait donc qu'il ait été brûlé et enterré, et que les cendres étaient enterrées dans une forêt. Oui. Oui, oui. Parce que les hindous sont les gens qui croient dans l'hindouisme. L'hindouisme n'existait pas encore à l'époque. Et les indiens sont les...
Vous parlez toujours du brahmanisme, mais
oui.
Vous parlez pas de l'hindouisme.
Oui.
Vous êtes arrivé combien d'heures après l'hindouisme, après le brahmanisme?
Oh ben, l'hindouisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est même après le Bouddha. Donc lui n'est concerné que par le brahmanisme. En fait, Je suis pas tellement un spécialiste de la pensée indienne médiévale, enfin plus moderne que l'époque du Bouddha, mais ce que l'on désigne par le terme d'hindouisme, c'est un certain nombre en général de rites qui sont beaucoup plus modernes que le brahmanisme. Le brahmanisme est la religion ancienne de l'Inde. Par la suite, le brahmanisme s'est séparé en 8 écoles différentes, mais qui sont quand même des écoles, on pourrait dire, orthodoxes, même si finalement elles prônent des choses qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Et ensuite, il y a eu mélange avec des cultures populaires et des systèmes de dévotion populaire, et c'est ça qui a donné ce que nous appelons l'hindouisme. Donc à l'époque du Bouddha, il n'y a pas quelque chose qui correspondrait à l'hindouisme tel qu'il existe en Inde, au moins depuis le 9e siècle, par exemple. Oui, alors des oppositions, comment on peut dire, verbales, doctrinales, il y en a eu beaucoup, parce qu'il a rencontré les plus grands maîtres de son époque, et donc ces gens n'étaient pas toujours d'accord avec lui. Il y a eu également assez peu, je dirais, de persécutions. Il y en a eu quelques-unes, il y en a eu très peu. D'ailleurs, souvent, elles venaient davantage des bouddhistes hein, que des non-bouddhistes. Hein. C'était souvent des disciples, hein, voire même des gens de sa propre famille, notamment un certain Devadatta, don des dieux, qui ont été des disciples qui se sont pas sentis assez reconnus ou quelque chose comme ça, et qui ont essayé de prendre la tête de la communauté. Et donc ces personnes donc sont comportées comme des factieux, mais bon ben il y en a un qui a essayé même de l'assassiner, donc c'est quand même une reposition quand on arrive à ce niveau-là. Mais ça reste des actes extrêmement isolés, propres à quelques personnages un petit peu emportés. Mais sans ça, le bouddhisme, il y a eu beaucoup de débats d'idées, mais il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de guerre ou vraiment de mouvements similaires.
L'expérience d'éveil à laquelle est parvenu Shakyamuni était quelque chose de tel qu'il se demandait comment le transmettre aux autres personnes, donc aux gens ordinaires qui n'ont pas fait cette expérience. Dans son premier recueillement, il dit qu'il a pris conscience pleinement de sa propre existence, mais non seulement de cette existence présente, mais de ses vies antérieures. Et si cette prise de conscience-là avait été ce que nous connaissons actuellement d'un point de vue scientifique, l'évolution. Et s'il avait pris conscience à ce moment-là que l'évolution perdure depuis 2 milliards d'années sur cette planète, et que, à ce moment-là, il se soit dit, comment est-ce que je peux dire ça à mes semblables à l'époque? Et s'il avait, à ce moment-là, accepté de le dire par l'idée de la métempsychose qui était communément admise par les gens à cette époque.
Oui. C'est possible, c'est tout à fait possible. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que on a affaire à quelqu'un qui est vraiment un pédagogue. C'est-à-dire que le Bouddha, même plusieurs fois, il dit que lui n'a pas tellement de grandes vérités à dire. Lui, ce qui l'importe, c'est de faire évoluer les personnes. Et donc de les faire évoluer à partir de là où elles sont. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, il a repris, sans trop s'opposer, un certain nombre des concepts qui avait notamment celui de la métempsychose à son époque. Et finalement, en reprenant ces concepts, il peut leur donner une coloration qui est propre à son enseignement et qui permet aux personnes à qui cela s'adresse d'évoluer. Maintenant, c'est une vue effectivement qu'on peut en avoir, d'identifier cette notion du passé et de toutes les existences que j'étais à une notion telle que l'évolution. C'est sûr que au moins toutes ces vies que l'on, si on reprend la pensée indienne traditionnelle, toutes ces vies que l'on a été ne sont pas seulement des vies humaines. C'est également des vies d'animaux, c'est également des...
Ce qui irait dans le sens de ce que je disais, à savoir que il y a 50 millions d'années, il n'y avait pas d'êtres humains sur la planète Terre. Et par conséquent, il y a eu toute une évolution à travers le règne animal, et même l'idée d'aboutir à faire que les gens cessent le cycle du samsara, c'est-à-dire de la réincarnation, puisque c'était ça l'objectif, c'était d'aboutir à arrêter à ça. C'était la manière de dire, ne continuez plus de penser à la naissance qui cause, car la réalisation, c'est ce que l'on fait dans cette propre existence-ci. Si vous ne réalisez pas les règles dans cette existence-ci, il ne faut pas espérer pouvoir le réaliser ultérieurement. Mais si je l'ai réussi, moi, chaque année, vous pouvez vous aussi le réussir. D'où la réponse qu'il fait à Ananda tout à fait à la fin, sois toi-même ta propre lumière.
Oui, tout à fait. Oui. La seule chose, c'est que quand même, là où c'est, à mon avis, quand même un petit peu différent de l'idée qu'on a, nous, de l'évolution, c'est que l'idée du samsara, c'est-à-dire de ce cycle de la métempsychose, c'est un cycle quand même. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est, comment dirais-je, qui revient sur lui-même. Oui.
On pense qu'on peut parler de cycle, de quelque chose qui reste sur le même plan. C'est-à-dire
oui.
qu'à un moment donné, on fait un cercle. Or, en fait, l'évolution, on peut espérer, chacun d'entre nous, c'est qu'elle se passe en toute connaissance de cause vers le haut, c'est-à-dire en spirale, et pour rejoindre le fameux point oméga dont on a essayé de faire là, et qui nous permet de retrouver la lumière. Alors qu'on on soit passé d'état, minéral, d'animal, etc., la question qu'on va se poser, y a-t-il un retour possible en arrière? Moi, personnellement, je ne crois pas. Il ne peut y avoir que des, disons, des paliers de stagnation parce que on a peut-être une vie chahutée, mais en tout état de cause, on est quand même amené ou tiré vers le haut.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense qu'on peut être également tiré vers le bas. Je ne sais pas si c'est le... Si on regarde l'idée globalement quand même du...
Ce que nous offre Bouddha, c'est quand même quelque chose, une espérance très lumineuse. Il dit, regardez ce que moi j'ai fait, moi j'essaye de vous amener à ça, c'est-à-dire de réaliser ce que moi j'ai réussi à le faire. En l'occurrence, ils sont mis devant sa vie, mais il y a un autre aspect qu'il a quand même introduit sur à ce moment de l'histoire de l'Inde, c'est cette notion de compassion. Est-ce que cette notion était quelque chose de vivant pour les Indiens? Apparemment, ils avaient l'air d'être très accueillants d'une façon générale, ce qui n'a pas été le cas en Europe avec l'Inquisition, mais là, apparemment, ça s'est nettement mieux passé à cette époque-là.
Oui, oui, tout à fait.
Même si les Brahmanes, après, ont repris
Mais je voulais je pense quand même que la base du bouddhisme vis-à-vis de ces problèmes, je ne sais pas, tels que la métempsychose, le sens de la vie, ou des choses comme ça, c'est en premier de reconnaître que ce sont des problèmes qui nous dépassent complètement. Que ce sont des problèmes auxquels nous ne pourrons répondre que par l'usage de concepts. Que ce sont des problèmes qui dépendent énormément de la manière dont ils sont posés. Et ce sont des problèmes souvent... qui se résolvent d'une manière artificielle uniquement par le langage. quand on voit la manière dont dans les sutras dont le Bouddha enseignait, il est finalement, il répond souvent aux personnes des choses parfois très surprenantes pour les personnes. Parce que souvent, il reprend les termes de la personne et il dit « Oui, mais vous avez dit ça, mais si on dit ça, qu'est-ce que ça signifie ?» Et quand on regarde dans le détail ce que ça signifie, on voit que finalement, on arrive qu'à quelque chose qui n'est qu'un certain nombre d'agencements d'idées, mais qui sont induites par le langage lui-même. Pour reprendre, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on pense, si l'évolution marche comme cela, alors il pourrait y avoir une sorte de, je ne sais pas, de progrès vers la qualité. Mais le phénomène de la métempsychose, hein, tel que j'en ai parlé la fois dernière, et tel qu'il a été vu non seulement par les bouddhistes, mais par d'autres penseurs indiens de la même époque, c'est un concept qui est inquiétant. Et je crois qu'on ne peut pas se départir de cette notion d'inquiétude. Parce que, en fait, je vous avais parlé la fois dernière, j'ai donné comme exemple, imaginons un homme qui tous les matins, en se réveillant, deviendrait amnésique. Et donc, il ne sait pas qui il est, et il ne sait pas ce qu'il a fait le jour d'avant. Alors, qu'il y ait eu du progrès entre la journée d'avant et la journée actuelle, si le matin, quand je me réveille, à chaque fois je suis amnésique, c'est quelque chose qui est inquiétant. La fuite des existences telle qu'elle est jugée par le bouddhisme dit, d'accord, on reprend la notion dans laquelle le brahmanisme et les autres croient faire de la métempsychose, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vies qui se suivent, mais je ne me rappelle pas, même en réfléchissant bien, je ne me rappelle pas de détails qui sont liés à mon existence passée. Même il y a des détails qui sont liés à l'existence actuelle dont je ne me rappelle pas non plus. Oui.
Pourquoi Bouddha a-t-il fait un tel travail sur lui-même pour parvenir à cette connaissance justement de sa vie passée? C'est qu'il jugeait...
Ce n'était pas le but. Le but, c'est échapper à la souffrance.
Non.
Oui, oui.
D'accord.
Oui.
Mais pour lui, ça a été le moyen de parvenir à... Il lui fallait cette connaissance avant de passer à une autre étape de son évolution. Ça lui paraissait, à travers ce que il est apparu comme absolument fondamental qu'il commence par ce travail, c'est-à-dire qu'il fasse émerger son inconscient, qu'il conscientise ce qui était relatif à ses vies passées. Parce que je pense qu'à un moment donné, si on parvient à cette chose-là, cette connaissance, eh bien, on repère le fil conducteur de l'ensemble de ses vies, et c'est clairement en soi, et ça porte quelque chose. Donc ça nous sort de l'incertitude, ça... Et quant à dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, on est absolument dans la matière, dans les sciences, et l'occidental n'a pas la tournure d'esprit que peuvent avoir les Indiens pour parler de leur vie antérieure. Mais il y a quand même...
Oui, je vois deux personnes, parce que moi je suis dans l'autre sens, et je vois deux personnes, parce qu'avant que la session se termine, qui avaient des questions à poser.
Quand on n'a pas des mots, quelquefois on peut utiliser des symboles.
Oui.
Est-ce qu'il a créé, inventé, utilisé des symboles?
Oui. Alors, il y a un certain nombre de symboles qui sont propres au bouddhisme, même qui parfois ont permis de le désigner. L'un des plus connus, c'est ce qu'on appelle la roue de la loi. La roue à rue et rayon. Et en fait, on dit que dès le premier sermon, en fait, il a mis en motion, en branle, cette roue. Par exemple, la roue est l'un des symboles qui est lié au bouddhisme. Il y a d'autres, des symboles graphiques, également la conque marine, par exemple, dans laquelle on souffle, qui est donc l'appel, c'était un instrument d'appel, hein, de l'époque. Et donc, c'est une grande voix qui résonne. Mais il y a beaucoup de symboles. Et je dirais que peut-être plus important que les symboles, il y a une mythologie extrêmement riche et très intéressante et vraiment passionnante. Et dans cette mythologie, enfin, qu'on retrouve entre autres dans la statuaire, là on trouve des symboles au niveau des différentes mains, ou des différents objets que tiennent des mains, ou des différents attributs de certains personnages. Mais il y a une mythologie qui est, qui vient en grande partie du monde indien et qui est passionnante. Oui.
On dit qu'à un moment, pour s'assister au Kedana, pour trouver la solution ce qu'il observe.
Oui.
Et que par il arrive à rentrer dans un premier état de conscience de ses vies passées, puis dans un deuxième stade des vies passées des autres, les 3000. Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir, je vais être pratique à l'obstacle, de savoir s'il n'a pas été un simulateur, s'il n'a pas eu une illumination d'ordre psychiatrique,
ça serait
aussi possible.
Est-ce qu'on ne peut pas le voir d'un côté pathologique? Ben, je sais pas, peut-être. Enfin, moi, c'est pas l'impression que donne le personnage, parce que finalement, il aurait simulé pourquoi, parce que, je veux dire, finalement, pour se retrouver entouré de quelques disciples et pour faire à pied toute une partie de l'Inde. Je crois que, à mon avis, je pense pas que de ce qu'on sait, enfin, c'était pas un... Il n'y a pas l'aspect un peu farceur comme ça.
Je parle pas de farceur, je parle de pathologie.
Oui. Ben, a priori, c'était quand même quelqu'un qui avait, quand on lit les textes, je veux dire qu'il y avait un sens, non seulement de l'usage de la logique, mais également d'une certaine intelligence du débat. Enfin non, enfin pathologique, c'est quand même pas l'impression qu'il donne, quoi. C'est pas l'impression première. Mais ça, c'est rien, parce que en fait, pour l'instant, j'ai quand même voulu camper un petit peu le décor, parce que souvent, c'est quelque chose que l'on ne fait pas avant que d'aborder les doctrines bouddhiques vraiment. Et là, vous allez voir que qu'il y a une philosophie qui est très profonde et extrêmement originale. Mais c'est marrant, mais je pense pas que c'est pas l'impression que ça donne, hein, ni le côté farceur, ni le côté aliéné. Hein.
Oui. Je pense que vouloir créer une société sans caste dans une société qui était avec caste, je pense qu'il devait y avoir des adeptes par milliers, parce que ça devait être quelque chose de séduisant ça devait séduire, tous les hors-castes devaient être séduits par Bouddha,
Alors,
est-ce que les hors-castes avaient la possibilité d'être intégrés?
Oui.
Je pense que c'est peut-être ça qui les a séduits et la raison pour laquelle ils allaient nous en aller.
C'est l'une des raisons. Ceci,
les hors-castes ont dû être séduits parce que c'était sorti de leur condition d'adoucheur.
Oui, mais je pense que il ne faut pas que nous le voyons d'un point de vue trop moderne, quelque part. Je ne pense pas qu'il s'est présenté comme une sorte de révolutionnaire social. Même si, oui, c'est l'opinion que nous en avons maintenant, mais à aucun moment il n'a eu un message de libération sociale. Il a fait pire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il a fait comme si le système des castes n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu une action qu'on pourrait dire, enfin en employant un mot moderne, politique ou activiste, contre le système des castes, dénonçant pourquoi c'est quelque chose qui crée de l'inégalité, etc., etc. Il n'a pas du tout un tel discours. Il a fait comme si ce système n'existait pas. Mais c'est une manière assez bouddhique, en fait, de résoudre les problèmes. Non pas de faire comme si le problème n'existait pas, mais de poser le problème à plat. Pareil, quand il y a eu les premières demandes qui ont émané de personnes de sa famille, qui étaient donc des femmes, d'entrer dans la communauté bouddhique, il a examiné le problème. Et il a résolu le problème de la manière qui lui était propre. Mais je pense que, effectivement, à mon avis, il y a, par exemple, dans l'Inde actuelle, il y a des mouvements bouddhistes hein, qui se présentent d'un point de vue sociologique.
En 2005, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les hors-castes choisissent la religion
oui.
animale,
oui.
le bouddhiste pour se sortir
oui.
de leur
caste, oui.
de leur
oui.
position oui.
de
Kusha.
Oui.
C'est
ce qui se passe
actuellement.
Tout à fait.
Dans un mouvement assez,
oui. assez fort. Oui. Sachant que, théoriquement, la constitution indienne, dès après-guerre, les avait déjà sortis juridiquement, légalement de cela. Mais dans les, effectivement, dans la force des mentalités, c'est quelque chose qui est fait un système qui a tenu pendant tant de siècles, il tiendra encore pendant plusieurs siècles. Enfin, il y a, enfin je ne suis pas prophète, hein, mais c'est un système qui fonctionne. Et donc, effectivement, des personnes en Inde qui veulent complètement sortir de ce système peuvent en sortir, ou bien d'un point de vue individuel, en ne le reconnaissant pas, d'autant que juridiquement, il n'y a plus rien normalement qui fait que ce système perdure, ou alors, effectivement, en adoptant une religion ou une pensée qui se situe en dehors du monde des castes. Mais vous savez, le fait que le bouddhisme ne reconnaisse pas les castes, à mon avis, c'était l'une des principales causes de son éviction de l'Inde. C'est-à-dire que où c'est l'Inde qui aurait dû abandonner peut-être ce système des castes, parce que quelque chose dans un corps social, dans un corps idéologique, quelque chose qui est complètement étranger, qui se développe, à un moment donné, c'est où le corps social global qui change ou qui est obligé au moins de s'amender d'une certaine manière ou alors cette chose qui était hors du système qui disparaît. Hein. Oui
on disait à un moment que son expérience était incommunicable et que cela était au-delà des mots. Mm. Comment pouvait-il enseigner au-delà des mots puisqu'il enseignait par la parole
oui. Je crois que ça c'est une question qui est intéressante. Et quand même, quand on voit, pas seulement le Bouddha, mais je pense d'autres sages de l'Orient, je pense notamment à Confucius par exemple, ou à Lao Tzu, on a l'impression qu'à un moment donné, les personnes se servent des mots pour, je sais pas comment dire, faire basculer mentalement, d'une certaine manière, leur interlocuteur. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois il y a des mots ou des attitudes, ou une manière de se comporter vis-à-vis de la personne, qui fait que on crée chez elle un état de, je sais pas comment dire, pas de choc, ça serait peut-être trop fort, mais un état où d'un coup, il n'y a plus rien qui est sûr. Et oui. Et parfois, je sais pas comment dire, enfin, parfois c'est assez proche de l'hypnose aussi, ou de choses comme ça, hein. Donc oui, je termine avec monsieur.
J'ai envie de répondre à monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il doute et qu'il a peut-être qu'il n'a pas trouvé juste.
Je ne doute pas que vous
êtes mon mental.
Je ne doute pas que vous êtes mental.
Oui, normalement c'est moi qui réponds. Hein. Oui. Normalement, c'est... Enfin, je veux bien écouter votre réponse, mais normalement, c'est moi qui réponds.
Il n'y a pas moi-même, mais c'est d'abord, assez grave, parce qu'ils ne vont pas distinction de mon avis.
Il faudrait avoir une
validité. Non, mais c'est...
Il faudrait avoir une
validité. Il y a quand même des symptômes, hein, pour dire que...
Oui, mais le texte...
Par rapport de communication non-verbale, ça s'appelle actuellement, ça s'appelle comme ça, communication non-verbale. Et nous, quand on fait l'action quand on est donné, nous faisons 80% de communication non-verbale. Et 20% avec des mots, des photos.
Ah, ça dépend des
thérapeutiques.
Ça dépend des
thérapeutiques.
Donc, il y a des choses. Même en chirurgie. En chirurgie, vous étiez à 80%, vous n'intervenez pas.
Non.
Ouais, c'est
la communication.
Oui. Oui.
Dans ce groupe de bouddhistes, ils ont mis des femmes.
Oui.
À part de pratiques de bouddhisme, ils ont formé des couples.
Alors, normalement, la communauté bouddhique, la Sangha, peut se subdiviser en quatre groupes. Quels groupes ? Qui sont donc des hommes religieux, qu'on appelle parfois les moines, même s'ils sont dans les monastères. Les femmes religieuses, il y a les nonnes, des hommes laïques, et des femmes laïques. Hein. D'accord, ce sont les quatre composantes. Vraiment, croyez-moi, hommes religieux, femmes religieuses, hommes laïques, femmes laïques. Les deux derniers groupes, les laïques, c'est les deux premiers groupes, les religieux, c'est ce qu'on appelle. Ceux qui sont sortis, si on traduit mot à mot, ceux qui sont sortis de la famille. C'est-à-dire que eux, ils n'ont plus, dans le bouddhisme antique, je ne dis pas que ce soit pareil aujourd'hui, mais dans le bouddhisme antique, ils n'ont plus du tout de rôle familial. Donc eux ne vivent pas en couple. Eux, ils ont peut-être vécu en couple dans le passé avant que de devenir des religieux, mais une fois qu'ils sont des religieux, ils ne vivent plus en couple. Ça, c'est un fait qui est certain. Bon, il y a peut-être des couples qui se formaient, etc. Je n'étais pas là pour voir à l'époque. Enfin, moi, je m'en rappelle plus. Mais normalement, ces personnes-là ont une vie tout à fait uniquement consacrée à l'étude, à la méditation et à l'approfondissement de la religion. C'est pour ça qu'ils sont sortis de la famille. À l'inverse, ceux qui vivent en famille, eux, effectivement, peuvent être ou célibataires ou en couple, avoir des enfants, etc. Donc, il y a les deux composantes à la fois dans le groupe. Le Bouddha lui-même, d'ailleurs, comme on l'a vu, est un homme qui a eu une famille et qui est sorti de sa famille. Même si après, finalement, on pourrait dire que sa famille, au moins sous la forme de sa femme, de son fils, l'ont rejoint à l'intérieur de la communauté. Mais là, il n'était que des membres de la communauté. Il n'avait plus un rôle de père pour son fils ou d'époux pour sa femme. C'était juste des disciples. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous en restions là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur Couchois nous a préparé des photocopies du script du cours, et également pour quelques personnes, si elles n'en avaient pas eu la fois dernière, il en manquait quelques-uns, ça c'est ceux de l'ancien cours.